FM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. Je suis pas d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business avec Audrey Tcherkov, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, c'est une bonne surprise, tant mieux. Le chômage a continué à baisser au quatrième trimestre en France, nous a dit Pôle emploi ce matin. Pourquoi, comment, on va voir ça avec Thomas Asportas, puis on ira sur le terrain tout à l'heure avec le patron de Manpower, oui, pour voir comment ça se passe du côté des agences d'intérim, bien sûr. Ça sera tout à l'heure à 19h15.
Et nous allons aussi parler de Microsoft, qui est dans une mauvaise passe, et cela se ressent à Wall Street puisque le groupe a publié, oui, ses résultats hier soir, qui confirment qu'il est en perte de vitesse. Le géant du logiciel n'avait pas affiché une croissance aussi lente depuis 6 ans.
Et en plus, il y a eu des bugs aujourd'hui sur Teams, oui, à Outlook. Vous parlez d'une journée, décidément. Sinon, dans un quart d'heure à peine, on parlera énergie renouvelable. C'est le patron du producteur indépendant Voltalia qui viendra nous voir sur BFM Business.
Et nous poserons cette fameuse question à son directeur général Sébastien Clerc. Pourquoi la France est-elle en retard sur le déploiement de ces, oui, énergies renouvelables? C'est dans 10 minutes.
À peu près, parce qu'on s'en désespérait hier soir. Voilà, oui, le programme non exhaustif, bien sûr, de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc, c'est la bonne nouvelle qui nous est parvenue aujourd'hui sur les coups de midi. Grosso modo, bonsoir mon cher Thomas.
Bonsoir Guillaume.
À la fin décembre en tout cas, le chômage continuait de baisser en France. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même.
Oui, le chômage effectivement a encore baissé au quatrième trimestre de l'année dernière et il est aujourd'hui à son plus bas niveau depuis la fin 2011. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et sans aucune activité professionnelle, ce qu'on appelle la catégorie A, a reculé de 112 000 au dernier trimestre 2022. Leur nombre a baissé de 3,8% par rapport au trimestre précédent et de 9,4% en un an. On avait très précisément 3 127 000 personnes en catégorie 1 fin 2021. On est passé à 2 834 000 fin 2022. Ça fait 293 000 chômeurs sans aucune activité en moins d'un an. C'est très significatif. Et si on inclut les autres demandeurs d'emploi, ceux qui ont une activité réduite, ce qu'on appelle les catégories B et C, eh ben, ça baisse encore. Leur nombre a reculé, donc A plus B plus C, de 280 000 en un an. C'est-à-dire une baisse de plus de 5%.
Est-ce que ça baisse dans toutes les catégories de population?
Oui, c'est l'autre bonne nouvelle. La baisse est généralisée. Chez les jeunes, toujours en catégorie A, les moins de 25 ans, moins 9,8%. Chez les seniors, plus de 50 ans, moins 8,9%. Autre bonne nouvelle, le nombre de chômeurs de longue durée, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage depuis un an ou plus, baisse de 13,5% en un an. Il y en a 360 000 de moins. Et enfin, le chômage baisse dans toutes les régions, sans exception.
Bon, et comment on explique ces bonnes nouvelles fondamentalement, Thomas?
Eh bien, c'est parce que l'économie résiste beaucoup mieux que ce qu'on pouvait s'y attendre. Les entreprises ont des carnets de commandes bien remplis. Elles continuent à investir, elles continuent à embaucher. L'an dernier, on l'a appris en début de semaine, elles ont signé plus de 5 millions de CDI, c'est-à-dire 700 000 de plus qu'en 2021. L'an dernier, on a aussi dépassé en France pour la première fois le cap symbolique du million d'entreprises créées dans le pays. Tout ça montre bien qu'il y a de l'activité et qu'elle est adressée à notre force de travail. Et jusqu'à présent, eh bien, on voit que cette dynamique elle est plus forte, oui, que le ralentissement de la conjoncture internationale et des difficultés liées à l'inflation ou à l'énergie.
Merci beaucoup Thomas. C'est pour ça que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'effectivement au niveau macro ça ralentit, mais sur le fond de l'emploi ça tient, Audrey, finalement.
En effet Guillaume, alors c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. Thomas a eu raison de le rappeler. On a 1 million de nouveaux entrepreneurs par an en France. Il n'y a aucun autre pays au monde qui connaît une dynamique aussi forte. Et puis ça se passe très bien aussi du point de vue européen, hein, puisque le taux de chômage dans la zone euro est tombé en novembre à son plus bas niveau historique, c'est-à-dire 6,5%.
Voilà, donc cette dynamique entrepreneuriale et les chiffres de l'emploi qui continuent à baisser en France. Bonne nouvelle, par ailleurs, l'Allemagne, elle devrait échapper à la récession cette année. Le ministère de l'économie qui tablait cet automne sur une baisse du PIB de 0,4%. Le ministère de l'économie prévoit désormais une toute petite hausse de 0,2%. C'est ce qui ressort en tout cas de ces dernières prévisions. 18h05. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume Sordre.
Bonsoir.
On parlait de Microsoft, qui a annoncé ses résultats la nuit dernière, qui a annoncé, comme tous les GAFA, des milliers de suppressions de postes, et les résultats qui sont tombés cette nuit le confirment, la croissance ralentit inexorablement.
Oui, et quand ça ne va pas, ça ne va pas, puisqu'en plus Microsoft a été le fruit de pannes tout au long de la journée, des pannes autour de Teams, des pannes autour de LinkedIn, autour même de Outlook, de sa partie jeux vidéo, aussi des services vidéo Xbox. Donc il y a eu pas mal de pannes. Donc c'est vraiment une sale journée pour Microsoft. Alors effectivement, résultat en hausse de 2%, on est à 52,7 milliards. Résultat net, lui, alors qui est de 16,4 milliards de dollars, hein, des entreprises pourraient dire mais c'est super. Non, c'est en chute de 12%. Donc c'est plutôt malvenu chez Microsoft. La plus faible, vous l'avez dit tout à l'heure, la plus faible croissance enregistrée depuis 6 ans. Tous les voyants sont au rouge, hein, que ce soit les licences Windows, que ce soit toute la partie matérielle, hein, les équipements Surface, la pub aussi qui a du mal à reprendre un peu de l'élan. Même les jeux vidéo, ben oui, les gens se concentrent au moins sur ce domaine avec l'inflation. Et il faut dire que la croissance post-Covid avait amené tous les gens à s'équiper en écran, en PC, en logiciel. Et puis là, bon, c'est un peu freiné. 10 000 licenciements, vous l'avez dit. Arrêt de sa division Allspace, qui était pourtant un peu le métaverse de chez Microsoft. Ouais. Ils préfèrent se concentrer sur d'autres sujets. Voilà, un gros coup de froid, en tout cas, sur la tech. Et on attend déjà les résultats de Meta, Facebook et Google la semaine prochaine.
Ça aussi, on attend. Il y a une question qu'on peut se poser. Alors, c'est valable pour Microsoft comme pour les autres. Sur quel relais de croissance ils vont s'appuyer pour rebondir finalement dans les prochains mois?
Alors, il va falloir accélérer sur le cloud, mais vraiment donner un gros coup d'accélérateur. Parce que jusqu'alors, alors le cloud, la division marche bien, la division Azure, mais la progression était de plus de 30%. Là, pour ce trimestre, elle est de 18%. Donc, quand même, une baisse assez sévère. Et pourtant, ils ont augmenté de façon très importante leur tarif. Mais selon Microsoft, il y a encore 50% des entreprises et des administrations américaines notamment qui doivent franchir le pas du cloud. Donc, ça fait un potentiel de marché. L'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ChatGPT, de cette start-up OpenAI. Microsoft vient d'y investir 10 milliards de dollars. La cybersécurité, Microsoft est, on ne le sait pas, mais l'un des gros acteurs en cybersécurité. Et puis, parier sur des secteurs en croissance au niveau de la tech, c'est la santé, c'est l'industrie 4.0. Et puis, évidemment, le jeu vidéo. On attend toujours ce rachat de Microsoft, de Activision Blizzard. Oui. 70 milliards dans la balance.
Pas gagné. Bon, hein.
Pour l'instant, c'est pas gagné parce que les régulateurs américains, européens sont un peu contre.
Voilà, Microsoft donc a publié. Le titre souffre à Wall Street. On verra ça tout à l'heure avec Sabrina Kelosi depuis New York. Merci beaucoup, Frédéric. 18h07. Alors, on vient en France avec une info qui va intéresser tous les propriétaires qui ont reçu ou qui vont recevoir un mail de l'administration leur demandant de compléter une déclaration d'occupation pour l'ensemble de leurs biens. Aude Kersulec, bonsoir.
Bonsoir.
On a jusqu'au 30 juin pour la remplir et ça doit servir visiblement à mieux cibler qui est redevable de telle ou telle taxe. C'est ça, Aude, hein,
concrètement. Oui, ça concerne donc les 34 millions de propriétaires en France. Il va falloir remplir une déclaration d'occupation donc sur impots.gouv.fr pour chaque bien en précisant si pour ce bien vous l'occupez, si celui-ci est vacant, si vous le louez. Et si vous le louez, vous devrez préciser à qui, combien et sur quelle période. L'objectif, c'est d'identifier quel propriétaire reste redevable de la taxe d'habitation, car elle a été supprimée cette année en entier pour tous sur la résidence principale, mais les propriétaires, les usufruitiers en restent redevables sur les logements meublés qu'ils soient peu ou pas habités. Et puis aussi, si votre logement est vacant depuis plus d'un an non meublé, et selon la zone où vous habitez, il y a aussi une autre taxe qui n'est pas la taxe d'habitation, mais la taxe sur les logements vacants qui a augmenté d'un tiers cette année. Et ça, c'est le risque que pointent du doigt les fiscalistes, l'augmentation progressive des impôts locaux, parce que il y a eu cette baisse de recettes pour les communes avec cette suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales qu'il va falloir compenser parce que ça finance le budget des communes.
Conclusion, surveillez vos mails. Voilà, ou peut-être l'administration va se manifester. Et puis après, ça se passera sur impots.gouv.fr, comme évidemment. Merci beaucoup, Aude Kersulec, avec nous sur BFM Business. 18h09. On va sur les marchés tout de suite. Retrouver Étienne Brack depuis Euronext à La Défense. Bonsoir Étienne. Un petit peu de rouge ce soir à la Bourse de Paris pour changer.
Bonsoir. Un peu, oui, hein, puisqu'on perd seulement 0,1% ce soir. On limite la casse. Hein. Quand vous regardez la tendance du côté de Wall Street, vous avez des indices qui sont dans le rouge, mais là aussi, du rouge moins vif que tout à l'heure à l'ouverture. Vous parlez de Microsoft qui perdait quasiment 4% à l'ouverture. Désormais, c'est une baisse de 1,5%. Des marchés qui hésitent un petit peu, qui attendent de voir également ce qui va se passer dans les prochains jours en termes de résultats, hein, puisqu'on n'est que au début pour l'instant. Vous avez des bonnes nouvelles du côté de ASML. Hein. Vous savez, c'est l'une des plus grosses valeurs en Europe. 240 milliards d'euros de de valorisation boursière et à un groupe eh bien, qui est quand même très optimiste pour cette année puisqu'il prévoit plus de 25% de croissance. Et puis à l'inverse, à noter eh bien, une très très belle performance du côté de Londres pour EasyJet qui voit une année 2023 très positive en termes de réservation et ça profite à ce titre à Londres qui gagne donc plus de 9% ce soir à la clôture. Et donc la Bourse de Paris qui se stabilise toujours au-delà des 7000 points, 7043 points avant LVMH demain soir. Ça sera bien sûr la publication du CAC 40.
Ça sera le gros morceau, effectivement. Merci beaucoup, Étienne. On regarde ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance, évidemment, avec un Dow Jones qui perd 0,58%, 33 539 points, puis l'indice Nasdaq. Lui qui perd un peu plus d'1%, 11 217 points. Tout ça à la mi-séance, 18h10. Notre premier invité tout de suite sur BFM Business.
Good evening business, pour parler, l'invité.
Pour parler énergie renouvelable avec Sébastien Clerc. Bonsoir Monsieur Clerc, installez-vous.
Bonsoir. Oui,
directeur général de Voltalia qui produit et qui vend, Audrey bien sûr, hein, l'électricité issue d'installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et stockage présents dans
un pays. Et trois continents.
Absolument. On se lamentait hier, Monsieur Clerc, de ce rapport d'Observer qui nous a remarqué, on le savait, on ne découvrait pas non plus la Lune, que nous étions en retard sur le déploiement de nos énergies renouvelables. À peine 20% du mix énergétique, ouais. Alors que nous devrions être à 23% à la fin de cette année. Déjà, est-ce qu'il faut à ce point s'en lamenter? Voilà. Est-ce que c'est si grave que ça? 3 points de retard sur nos objectifs pour vous.
Oui, je pense qu'il faut se lamenter. Il faut s'inquiéter pour nous cette année, pour nos enfants un peu plus tard. La France avait déjà été en retard. Le seul pays de l'Union européenne à être en retard sur son objectif de renouvelables, pourtant fixé près de 10 ans plus tôt par l'Union européenne, hein, donc objectif à laquelle. Auquel la France avait souscrit. Donc en 2020, la France a été le seul pays de l'Union en retard sur sa cible de renouvelables. On devrait donc accélérer pour tenir notre prochain objectif. Et là, on est en cours de marathon et on franchit une nouvelle étape avec du retard. Cet indice est produit par des institutions respectables, l'ADEME, et on voit qu'effectivement, on est en retard.
Mais ce qu'il faut préciser quand même, c'est que la France est le pays le plus vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que si on prend l'exemple de nos voisins allemands, qui eux sont beaucoup plus avancés sur le déploiement des énergies renouvelables, polluent 10 fois plus le ciel que la France.
Et c'est très bien qu'on ait en France pour cela du renouvelable. Au passage, il y a d'autres pays qui sont encore plus en avance que la France. Hein.
Mais on fait partie des plus vertueux.
Exactement. Non, mais je le dis parce qu'il faut être fier de nos résultats, mais sans pour autant les exagérer. Et vous avez raison. Nous avons en France une grande partie de notre production qui provient du nucléaire. Oui. Pour autant, le renouvelable est un complément nécessaire. Oui. Nécessaire parce qu'on voit bien à quel point une centrale électrique vieillissante, oui. Que ce soit une centrale nucléaire ou d'une autre technologie, produit de moins en moins d'électricité chaque année. Et Dieu sait qu'on a vu ça cette année avec des questions de vieillissement, oui. Et même des questions de sécurité.
On n'a pas fini de le voir, oui.
Et c'est pas fini, parce qu'une centrale ancienne et âgée cumule progressivement. Et puis, comme ça prend 20 ans à remettre des nouvelles centrales nucléaires, et encore 20 ans selon les plus optimistes, hein, je ne sais pas très bien si c'est selon la police ou les manifestants, mais enfin selon les plus optimistes, comme d'ici 20 ans, on va se chauffer l'hiver,
Sébastien Clerc,
il faut du renouvelable.
Le projet d'accélération des renouvelables a donné lieu à un accord cette nuit enfin au Sénat. Alors, il s'agit de raccourcir les délais des projets, de libérer du foncier pour le solaire et l'éolien au bord des routes, bordure de littoral, parking extérieur, mieux partager aussi la valeur de ces énergies renouvelables. Est-ce que c'est une loi en ambitieuse?
Non.
Pourquoi?
Non, parce que c'est une loi dont l'objectif était, comme son nom l'indique, d'accélérer. Elle s'appelle loi d'accélération du renouvelable. Cette accélération est requise parce que non seulement il faut aller vite dans la décarbonation, mais il faut aller tout simplement vite pour trouver de l'énergie en Europe. Maintenant qu'on n'a plus l'arrivée de l'énergie de Russie, et maintenant que le plus grand parc de la plaque européenne connectée, hein, qui est le réseau, les centrales nucléaires françaises, est à ces problèmes, il faut donc accélérer.
Et cette loi. Pourquoi vous dites qu'on n'accélère pas très concrètement alors?
Parce que c'est dans ces mesures, qui sont le résultat d'un consensus d'une assemblée et d'un Sénat qui n'ont pas de majorité absolue. Oui, donc il faut trouver quelques... Et donc on se retrouve sur des consensus qui concernent finalement peu de sujets et qui vont avoir... Dans cette loi, il y a des éléments d'accélération... Mais bizarrement, il y a aussi des éléments de freinage. Et aujourd'hui, je ne sais pas encore, je suis raisonnablement optimiste que l'accélération l'emportera légèrement sur le freinage. Oui. On s'en reparlera peut-être sur ce plateau deux ans.
Est-ce que vous trouvez qu'on a passé trop de temps à pinailler, ne serait-ce que ces dernières heures, sur des sujets comme, alors je cite, la planification des zones d'accélération, les zones d'exclusion, l'agrivoltaïsme, un déploiement de panneaux photovoltaïques sur des guerres cultivées. C'est ce que vous dites, ça a été des guerres picrocollines sans fin, finalement, cette histoire.
Moi, je vois quand même que les lois d'accélération de nos voisins européens, elles étaient mises en œuvre au bout de 2 mois après l'invasion de l'Ukraine.
Bon, alors, c'est quoi le problème en France?
Je comprends ça.
C'est quoi le problème en France, alors, avec ce sujet, monsieur Clair, finalement?
C'est que ça prend très longtemps d'obtenir un consensus entre de voter un même texte à la virgule près entre une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité absolue et un Sénat qui est lui-même lui-même n'a pas non plus de majorité absolue, en tout cas pas du côté du gouvernement, ça prend du temps pour arriver à coucher d'une souris, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Mais quand on voit que nos voisins allemands, eux, ont réussi à accélérer, notamment sur l'éolien, que quand il n'y a pas de vent, l'éolien, ça ne marche pas, et que donc ils ont beaucoup compensé avec du gaz et du charbon, et c'est notamment pour ça qu'ils ont beaucoup plus pollué. Est-ce que l'éolien, c'est l'alpha et l'oméga, justement, de cette question de l'énergie et de l'électricité ?
Je m'interroge sur où est-ce qu'on peut trouver de l'énergie en Europe, n'est-ce pas ? Nous avions du gaz russe.
Oui.
Il n'est plus là, pour des raisons diplomatiques et des raisons pratico-pratiques que, je rappelle, que le pipeline qui alimentait l'Allemagne est détruit. Et en plus, les gens qui l'ont détruit, je ne sais pas qui, l'ont détruit. Ils ont bien fait attention de le détruire dans les eaux de 2 pays différents, ce qui fait que si un jour on voulait le réparer, ce qui pose plein de problèmes, il faudra l'accord de ces 2 pays en plus de l'Union. Bonne chance.
Bon.
Donc, cette source-là, elle n'est plus là. Le charbon, personne n'y songe. On ne va pas réinvestir pour 30 ans de charbon. Alors, il reste le nucléaire et le renouvelable. Le nucléaire, en allant le plus vite qu'on peut, avec toutes les lois d'accélération qu'on va pouvoir faire pour reconstituer notre parc nucléaire, mais quand je dis 20 ans, tout le monde est d'accord de dire que ce sera plus longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait pendant 20 ans ? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Je suis ouvert à vos suggestions que l'éolien et le solaire.
Bon, donc vous n'êtes pas convaincu par cette loi. Est-ce que vous faites partie des acteurs énergétiques qui vont être mis à contribution sur ce qu'on appelait les super profits, finalement, pour...
J'aimerais bien qu'on ait beaucoup de super profits, mais Voltalia a une stratégie de signer des contrats de très long terme, et donc contrairement aux utilities qui elles vendent au prix de marché, nous nos contrats sont dans ces prix fixés pour 20 ans.
Ouais. Et vous n'allez pas apporter votre contribution pour les bonnes œuvres de l'État pour.
À loin qu'on puisse dire, c'est qu'on fasse des contributions, puisque l'État, vous le savez peut-être, gagne 32 milliards d'euros en achetant l'électricité renouvelable des producteurs et en le revendant par rapport au prix de marché. Ça fait un profit de 32 milliards d'euros depuis le début de, depuis le
Alors,
début
pu,
de la guerre.
Donc c'est une contribution. Puisqu'on parle des profits.
Ça a financé la totalité du bouclier.
Oui, absolument. Non, mais vous avez raison de parler des profits de l'État, mais on va aussi parler de vos profits à vous, puisque vous venez de publier vos résultats 2022. Donc, croissance des revenus de plus 26%, c'est pas mal, à plus de 500 millions d'euros. Et vous annoncez aussi avoir atteint, avec un an d'avance, votre objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction. C'est bien ça ?
C'est exactement ça. Mmh. Donc, ce soir, effectivement, nous avons annoncé nos revenus de l'année dernière. Une belle croissance, et puis qui se situe d'ailleurs dans la production d'électricité, mais aussi la prestation de services, puisque Voltalia, entreprise à mission, cotée en bourse, veut verdir la planète tout en apportant du pouvoir d'achat en faisant une énergie pas chère. Et c'est vraiment les deux aspects de notre stratégie. Et pour arriver à faire ça, nous développons, nous construisons des nouvelles centrales que nous détenons, mais nous le faisons aussi pour les utilities, les fonds d'investissement et tous ceux qui veulent, comme nous, verdir la planète.
Et ben voilà pour vos chiffres que vous avez présentés ce soir. Je rappelle, on disait vous êtes présent dans 20 pays, donc finalement la France et ses pesanteurs administratives, bon, c'est pas ça qui vous affecte le plus au quotidien, hein, vous regardez ça.
Bon, c'est un pays important pour nous,
ce sont nos racines. Quel pourcentage de votre activité, c'est quel ratio de
C'est une vingtaine de pourcents de nos revenus.
Quand même, donc.
Donc ça pèse lourd. Mais heureusement, il y a d'autres pays qui avancent plus vite. On a des taux de croissance qui sont à trois chiffres dans des pays comme en Europe, le Royaume-Uni ou l'Albanie qui grossit beaucoup. En Afrique, c'est vraiment en Afrique du Sud où il y a une crise énergétique similaire à celle de l'Europe. Donc on a vraiment des zones de très forte croissance comme ça.
Merci beaucoup Sébastien Clerc en tout cas. Merci beaucoup de passer nous voir ce soir pour commenter ces chiffres qui sont tombés hier concernant la France, ce retard dans le déploiement des renouvelables. Sébastien Clerc, le directeur général de Voltalia avec nous. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de Good Evening Business. 18h20, une petite pause.
Oui, c'est l'heure du grand débat de Good Evening Business dans un instant avec nos éditorialistes qui vont nous rejoindre dans quelques secondes.
Ils arrivent, on va parler des chiffres de l'emploi qui sont tombés ce matin, qui sont plutôt satisfaisants. C'est une bonne surprise. On va parler un peu...
Pour une fois, Guillaume, une bonne nouvelle.
Pour changer un petit peu des retraites. Et puis de ce qu'annonçait BNP Paribas hier, qui veut verdir petit à petit ses activités de plus en plus. Peut-il y avoir une finance durable à terme sur la planète?
Une économie positive, on en parle dans un instant.
Un peu pieux, absolument.
A tout de suite.
Good Evening Business, le débat.
Allez, 18h25, ils sont là, nos débatteurs. On va les appeler comme ça, nos débatteurs.
C'est ça.
Évidemment. Audrey Tcherkov avec nous pour le débat.
Bonsoir.
Bonsoir Audrey. Marc Landré est avec nous. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Directeur associé chez SIA Partners, ex-rédacteur en chef au Figaro. Michael Zemmour, bonsoir Michael. Bonsoir. Bienvenue. Économiste à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et Emmanuel Lechypre pour BFM Business. Bonsoir mon cher Emmanuel. Est-ce que vous avez été surpris quand même agréablement par les chiffres du chômage qui sont tombés ce matin, chiffres du quatrième trimestre que nous a donné Pôle emploi, qui nous dit, en catégorie A, on tient à la catégorie A, on recule de 112 000. Leur nombre a baissé de 3,8% sur un trimestre et de 9,4% sur un an. Est-ce que ces chiffres vous surprennent, Audrey, à l'arrivée
Ce qu'il faut préciser, c'est que le chômage baisse autant chez les jeunes de moins de 25 ans que chez les seniors de plus de 50 ans, et ça concerne aussi toutes les régions. Donc c'est une vraie bonne nouvelle qui concerne aussi l'Europe plus globalement, puisqu'en novembre dernier, le taux de chômage dans la zone euro est tombé à son plus bas niveau historique, c'est-à-dire à 6,5%. Donc voilà, les entreprises résistent, l'économie résiste, mais c'est vrai que en tout cas, l'étude Manpower disait aussi en décembre dernier que 41% des patrons veulent embaucher, et je vous rappelle que l'année dernière, c'est 1 million de nouvelles entreprises qui se sont créées. Ouais. Donc on a quand même une dynamique assez extraordinaire en France.
C'est quand même un peu étonné par le décalage entre le discours macro et la résilience de ce marché du travail. Marc, comment est-ce que vous regardez ça, vous, fondamentalement On se dit que ça ne va pas durer à chaque fois, et puis si, ça dure.
On dit que ça ne va pas durer. À ceci près, il y a deux points qui peuvent permettre de le comprendre. Et déjà, je parle sous le couvert de Maître Lechypre, le conjoncturiste Maître Lechypre.
Bah si, quand même.
Oui, Manu, c'est toi. Il y a toujours un décalage à peu près de 6 mois entre la dégradation de la conjoncture et l'impact sur les chiffres d'emploi du chômage. Donc déjà, on sait que si la conjoncture ralentit, si la croissance ralentit, on le sentira 6 mois après. Donc c'est plutôt sur 2023 que sur la fin 2022 que le petit tassement conjoncturel se ressentira sur le marché du travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on n'est pas finalement sorti du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que contrairement aux autres pays européens, le gouvernement, l'État français continue de massivement soutenir les entreprises, l'activité des entreprises, la finance des entreprises, pour faire en sorte qu'elles ne soient pas trop mal dans cette période. Donc forcément, en les soutenant financièrement, ça leur permet d'avoir une assise financière plus sympathique, plus performante pour recruter. Et troisième point, et j'en finirai là, on est dans une période inédite où on a des tensions de recrutement qui sont telles que les boîtes n'ont pas d'autre choix que d'aller piocher dans le chômage, y compris dans le chômage de longue durée, pour trouver de la main d'œuvre dont elles ont besoin.
Bon, vous achetez ces arguments, Michael? On va rentrer dans le dur finalement dans quelques mois seulement ou...
Effectivement, il y a toujours un décalage. Et donc le problème avec les chiffres du chômage, c'est qu'on regarde dans le passé, quand la conjoncture varie et qu'elle varie vite. Je lisais l'interview de Mathieu Plane dans Les Échos de l'OFCE, qui dit pour 2023, ça risque de se ralentir. Les chiffres du chômage risquent d'être moins bons. Et l'objectif de 5% de chômage en 2027 d'être difficile à atteindre. Donc effectivement, les macroéconomistes ne sont pas très optimiste. Ouais. Après, il y a une deuxième chose qui est intéressante dans la publication de Pôle emploi, c'est que on voit quand même qu'on reste à un très haut niveau d'activité partielle et donc d'emploi à temps partiel. C'était censé être le type d'activité réduit par la réforme de l'assurance chômage. Vous vous rappelez qu'on avait diminué l'indemnisation des chômeurs en chômage partiel en se disant du coup ils vont prendre un emploi à temps plein. Pour l'instant c'est pas ce qu'on voit, et d'ailleurs il y a une partie des chômeurs de catégorie A qui passent en B et C. C'est-à-dire qu'en fait
forte hausse B et C là dans les chiffres.
Surtout en B,
moins de 20 heures. En moins de 20 heures.
Et donc des miettes d'emploi en réalité. Et donc ça, c'est une forme d'inquiétude à la fois pour leur niveau de vie, parce qu'ils sont moins bien indemnisés qu'avant, mais aussi sur la qualité de l'emploi.
Non, mais juste, Mickaël, les entreprises l'année dernière ont signé plus de 5 millions de CDI. C'est quand même 700 000 de plus qu'en 2021. Les entreprises veulent embaucher. Enfin, elles embauchent.
Elles embauchent en partie, qui ne sont pas très clairs. Partiel et très partiel. Et justement, l'objectif de la réforme, c'était de favoriser des emplois non seulement en CDI, mais aussi stables et à temps plein. Et là, on n'est pas tout à fait là-dedans. Mais effectivement.
5 millions de CDI, mais c'est quand même beaucoup, non?
Quand vous allez bosser 10 heures au McDo et que vous êtes étudiant, vous êtes pris en CDI parce que l'employeur, ça lui coûte moins cher que de vous prendre en CDD. Donc le CDI, c'est pas en soi une garantie d'un bon emploi. C'est une des caractéristiques, c'est vrai. Mais si l'emploi est à temps partiel, l'emploi n'est pas forcément un emploi très rémunérateur, stable, etc.
30 secondes, Manu, puis on fait la pause et on va y retourner.
Alors je pense que les autres données qu'on a qui viennent, notamment de l'INSEE, etc., montrent quand même qu'il y a une amélioration qualitative des emplois. Il n'y a jamais eu autant de proportions
de CDI.
Jamais eu autant en proportion de temps complet. Donc on a quand même une amélioration qualitative aussi du contenu en emploi. Après, moi je pense que ça va bien au-delà de tous les commentaires qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de changer de monde. Et durablement. C'est-à-dire que nous entrons un monde dans lequel, durablement, la main-d'œuvre va devenir une denrée rare. Et que on voit bien, regardez ce que dit le rapport d'ARES France Stratégie, 120 000 personnes chaque année qui vont manquer quand même à l'appel avec des tensions inédite dans des secteurs aussi variés, qualifiés, pas qualifiés, service à la personne, ingénieur, etc. Et que moi je suis beaucoup plus optimiste pour aller dans les convictions de Mickaël, c'est que je pense qu'on rentre dans un monde qui va être durablement plus favorable aux salariés. Les années qui viennent, ça va être la revanche du salarié sur l'actionnaire. Fondamentalement, parce que vous verrez que pour tout un tas de raisons, le partage de la valeur ajoutée va redevenir plus favorable aux salariés.
Allez, on marque une pause. La première partie, tour de chauffe réussi. On se retrouve dans deux minutes parce que il est 18h30 sur BFM Business.
À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
Et qu'à 18h30, c'est Faïza Younzi, bien sûr, qui nous donne les grands titres de l'actualité. Bonsoir, Faïza.
Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous. Et à la une, le net recul du chômage en France, il a baissé de 3,6% en catégorie A au quatrième trimestre, après avoir stagné au trimestre précédent, avec 114 000 demandeurs d'emploi inscrits en moins, malgré une croissance en panne. Le niveau de chômage dans cette catégorie atteint son plus bas niveau depuis 11 ans. Nous continuerons à en parler après ce flash avec Alain Roumilla, qui est président de Manpower France. La réforme des retraites, toujours dans l'actualité, les leaders syndicaux se sont réunis aujourd'hui pour installer la mobilisation dans la durée. Et les débrayages vont commencer dès demain dans le secteur de l'énergie. Il pourrait y avoir des baisses de production d'électricité jusqu'à vendredi, après un appel à la grève de 48 heures et des coupures ciblées. Les syndicats prévoient par ailleurs des opérations gratuites. La CGT Pétrole veut également mobiliser ses troupes demain et après-demain. Dans l'actualité des entreprises, Soitec, portée par une très forte demande, le spécialiste des semi-conducteurs annonce un chiffre d'affaires en hausse de plus de 30% sur un an à 274 millions d'euros pour son troisième trimestre décalé. Sur les 9 premiers mois de son exercice, ses revenus ont bondi de 20%. Soitec souligne la forte croissance de sa division automobile notamment. Alstom publie un chiffre d'affaires en hausse également de 8% sur son troisième trimestre décalé à fin décembre, à plus de 4 milliards d'euros. Le constructeur ferroviaire est porté par une demande européenne plus forte que prévue. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'année. Et puis des revenus records pour le canal de Suez. Il a rapporté 7,5 milliards d'euros à l'État égyptien en 2022. Un chiffre en hausse de 25% sur un an. Cette performance est liée à la très forte reprise du commerce mondial. Encore un grand nom du monde de la culture britannique qui tourne le dos à British Petroleum. Cette fois-ci, c'est le Royal Opera qui met un terme à son partenariat de 33 ans avec le groupe pétrolier. Il n'emboîte pas la National Gallery ou encore la Royal Shakespeare Company. Le mécénat de BP était très sévèrement critiqué par les associations écologistes. Et on termine avec cette perquisition dans les locaux de BNP Paribas à Francfort par la police allemande. D'après le quotidien Handelsblatt, ces perquisitions sont réalisées réalisée dans le cadre des Cum Ex Files, une affaire de fraude fiscale qui avait été révélée par plusieurs médias internationaux, dont Le Monde, portant sur plusieurs milliards d'euros. On jette un œil au CAC 40 ce soir. Il est quasiment à l'équilibre. Il clôture à 7043 points.
Merci beaucoup, Faiza. 18h33, c'est reparti pour le grand débat de Good Evening Business jusqu'à 19h.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Good Evening Business, le débat.
Le débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov, avec Marc Landré, avec Mickaël Zemmour et Emmanuel Lechypre. On va parler retraite dans un instant, ça nous manquait. Non, vous voulez dire un petit mot sur les chiffres du chômage encore?
Non, je voulais simplement dire que c'est quand même pas facile parce que quand on a des chiffres négatifs, on est tous hyper négatifs et quand on a des chiffres positifs, et ben on reste hyper négatifs.
Non, on a été positif.
Non, mais je parle à mon voisin de gauche, donc et Mickaël. Non, mais c'est vrai que.
C'est
compliqué parce que c'est vrai que tous les jours, enfin sur BFM Business en tout cas en l'occurrence, on reçoit des entrepreneurs, on voit des nouvelles idées, on parle de levée de fonds nouvelles, etc. etc. Et je rappelle quand même que voilà, ce million de nouveaux entrepreneurs l'année dernière, est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel on a une dynamique aussi forte? Non.
Alors attention,
laissez Mickaël.
En fait, je voudrais rejoindre ce que dit Emmanuel Lechypre, parce que je suis d'accord qu'on est le marché du travail est en train de changer et je pense que pour l'instant, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et parmi le « on ne comprend pas », il y a l'auto-entreprise qui fait beaucoup de création d'entreprises. Et
donc,
quand vous êtes en auto-entreprise, vous n'êtes pas au chômage la plupart du temps. Mais du point de vue du marché du travail, c'est un peu difficile de dire ce qui se passe.
Ça donne quand même une idée de la dynamique.
Il y a une dynamique, mais une dynamique de quoi, c'est pas évident.
Il y a beaucoup, surtout que la majorité des auto-entrepreneurs sont salariés.
C'est-à-dire que c'est du complément de revenu.
Chez les auto-entrepreneurs et chez les entreprises que vous voyez se créer, vous avez des salariés qui font du complément de revenu, c'est une partie, et vous avez de l'emploi de moins bonne qualité qui n'est plus de l'emploi salarié. Alors, par exemple, dans la profession des journalistes, il y a beaucoup de rédactions qui, plutôt que de faire appel à des pigistes salariés, vont mettre en auto-entrepreneur les journalistes.
C'est vrai.
Et donc, moi, je suis d'accord avec Emmanuel Lechypre, le marché du travail est en train de changer, mais on a du mal pour l'instant à lire des chiffres. La création d'entreprises a explosé, mais l'essentiel de la création d'entreprises depuis le Covid, c'est de l'auto-entreprise, je ne sais pas encore quoi en penser.
Bon, Emmanuel, vous voulez dire un mot là?
C'était pour relativiser, effectivement.
Mon optimisme.
On ne peut pas prendre pour argent comptant le million, effectivement, de création d'entreprise, avec toutes les questions que ça pose sur le statut de l'auto-entrepreneur, sa précarité. On a quand même l'impression que le statut d'auto-entrepreneur, finalement, est-ce qu'il y en a tant que ça
qui sont vraiment actifs?
Oui. Est-ce qu'il y en a tant que ça pour qui c'est une rampe de lancement ensuite vers une autre entreprise? C'est un peu la même illusion que le microcrédit, vous voyez. C'est-à-dire que le microcrédit, ça a permis à plein de petites structures de se... Il n'y a pas de grandes entreprises qui sont nées du microcrédit. Après, moi, je pense que c'est ça. Donc, les auto-entrepreneurs, finalement, ils se sont, pendant des années, finalement, payés eux-mêmes leur SMIC. Finalement, c'est un peu ça. Ou leur minima social, finalement. Et puis là, on voit qu'ils vont aussi, finalement, peut-être créer ce statut pour se payer aussi une petite retraite plus tard. Donc, il y a une partie de précarité dans ce statut d'auto-entrepreneur. Mais c'est vrai que je continue à penser qu'on est quand même... On voit bien que, encore une fois, plus de CDI, plus de temps plein, etc., ça montre que le balancier est en train de bouger et que, effectivement, aujourd'hui, attendez, tous les grands patrons, tous les grands DRH, je vous dis, mais attendez, maintenant, c'est à nous. Alors, je parle plutôt des diplômés. Mais c'est à nous de défendre, finalement, et de pitcher devant les gens qui veulent un boulot pour les séduire.
Pour les séduire et les attirer.
Et pour les embaucher. Et ça, c'est quand même des tendances qui, à mon avis, sont durables.
Marc Landré. Manu, c'est le cas aussi chez les non-diplômés.
Et c'est le cas aussi chez les non-qualifiés.
Parce que sur certains métiers qui sont très tendus, où on ne trouve pas de main-d'œuvre, les DRH sont obligés de rivaliser d'ingéniosité pour attirer les talents, pour attirer les compétences là où il n'y en a pas. Mais un point, Audrey, pour aller dans votre sens, il y a un chiffre qu'on commande toujours quand il n'est pas bon, mais qu'on ne commande jamais quand il est bon et qui plaide dans ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la qualité des emplois qui sont créés. C'est le halo du chômage. Le halo du chômage, c'est cet indicateur qui est apparu il y a peut-être une dizaine d'années et qui indique le nombre de gens qui sont disponibles, qui aimeraient travailler plus, mais qui ne le peuvent pas. Et bien ce chiffre, il est historiquement bas. On n'a jamais eu un halo du chômage plus faible qu'en ce moment. Et c'est un vrai indicateur de la capacité des gens à se projeter dans l'avenir et dans l'emploi qualifié, sachant qu'aujourd'hui, l'emploi qu'ils ont, grosso modo, je dis pas que c'est génial, c'est pas Byzance, grosso modo, c'est mieux qu'avant, et en tout cas, ça les satisfait grandement. Bien, voilà pour
c'est ça qui est aussi compliqué dans la projection qu'on peut faire de ce qui va se passer autour de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'à partir d'une réforme qui est quand même d'une rusticité.
Quelle transition.
Mais voilà, j'allais dire sans transition.
C'est-à-dire que c'est une réforme paramétrique comme on en fait à peu près tous les 10 ans et comme il faudra en refaire dans 10 ans. Mais c'est l'environnement autour de tout ça qui est en train de changer. Moi, honnêtement, sur la question du travail des seniors, par exemple, je suis assez optimiste compte tenu de tout ce qu'on vient de dire.
Ah, et le retour en grâce des seniors.
Ben, oui, parce que les entreprises,
de force,
il faudra bien qu'elle se tourne vers les seniors.
Comme elles l'ont fait en 2010 d'ailleurs.
Alors, cette réforme des retraites, justement, on est à quelques jours de la deuxième journée de mobilisation, mardi prochain, 31 janvier. On a des syndicats qui font forcément continuer d'essayer de mobiliser les troupes.
Et oui, c'est ce qu'a fait encore tout à l'heure Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui le répète, la situation financière du régime de répartition ne nécessite pas de réforme urgente. On l'écoute tout de suite.
Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
Voilà, Philippe Martinez, donc, tout à l'heure. Et alors, on va alimenter ce débat, justement. Y a-t-il péril en la demeure ou pas? Parce que ce sont, vous allez voir, si vous nous regardez à la télévision, nos collègues du journal L'Opinion, qui faisaient leur une ce matin sur ce sujet, qui posent la question. Ces prévisions du COR, vous savez, le Conseil d'orientation des retraites que tout le monde utilise pour dire et conclure tout et son contraire, finalement, depuis des semaines, est-ce qu'elles sont fiables? Le COR par-ci, le COR par-là. Il y a toutes les interprétations sur ce sujet. Michaël Zemmour, est-ce qu'il faut croire forcément, à tout bout de champ, ce que dit le COR, finalement? Il y a un débat qui commence à monter, là, sérieusement.
Ça me paraît vraiment un très mauvais débat, parce que le COR, c'est un outil qui ne fait pas de recommandations et qui met à disposition de toutes les personnes qui s'y intéressent, les journalistes, les syndicalistes, le patronat, le gouvernement, une collection d'informations sur les retraites, à la fois les études scientifiques, mais aussi des projections. Et le COR, il est assez clair, il dit, moi je sais pas s'il y aura de la croissance ou s'il n'y en aura pas, s'il y en a, ça donne ça, s'il n'y en a pas, ça donne ça. Vous voulez faire une réforme de droite? Voilà ce que ça coûte. Vous voulez faire une réforme de gauche? Voilà ce que ça coûte. Et donc c'est un excellent outil, comme on n'en a pas dans beaucoup de politiques publiques. Sur l'emploi, on n'a pas ça. Sur le climat, j'ai rencontré les spécialistes du Haut Conseil pour le climat, je dis, regardez ce que fait le COR. Donc s'attaquer au thermomètre parce qu'on n'est pas d'accord sur le diagnostic.
Alors, je vous pose la question, parce que tout le monde s'en saisit des travaux du COR pour conclure tout et son contraire.
Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous, Michael. Dans le rapport du COR, c'est quoi? C'est une centaine de pages, une centaine de calculs, donc une centaine d'hypothèses. On a quatre conventions, quatre façons de compter le déficit. Et en fait, en réalité, ça alimente les deux parties. Ceux qui disent qu'il faut réformer et puis ceux qui disent qu'il ne faut pas réformer.
Non, ça dit plein de choses. Ça dit, voilà, en fonction, ça fait pas des prévisions, ça fait des projections. Et ils expliquent ça en disant, si le chômage augmente, voilà où on va aller. Si le chômage baisse, voilà où on va aller. Et ensuite, selon ces différents scénarios, ils vous disent pour chaque levier, vous voulez toucher à l'âge, voilà de combien il faut le décaler pour équilibrer. Vous voulez toucher aux cotisations, voilà de combien il faut les augmenter. Vous voulez toucher aux pensions, voilà. Et donc, c'est un tableau de bord. Et donc, un tableau de bord, on peut dire il manque une hypothèse. D'ailleurs, ils ont changé les hypothèses en consultant les économistes.
Et parfois, à quelques mois d'intervalle, Michael, rappelez-vous, avant 2017.
Oui, mais globalement, le tableau de bord, il ne vous dit pas où il faut aller.
Marc Landré.
Le même débat revient à chaque réforme des retraites. À chaque réforme paramétrique, depuis que le COR a été créé par Lionel Jospin en 99, on attaque ces projections en disant elles ne sont pas fiables, les hypothèses ne sont pas bonnes, ça donne de mauvais indicateurs, etc. Il y a une vérité qui est certaine, c'est que se projeter à 30 ou 40 ans, ça ne veut rien dire.
Non, même là, il se projette dans cet attaquer à 5-6 ans.
Non, mais ça a une vérité. Mais enfin, vous avez un Covid qui passe par là. Je veux dire, tout est mis à plat.
Évidemment.
Donc, de toute façon, je veux dire, la projection, elle est difficile à partir du moment où elle concerne l'avenir, comme disait l'autre. Et là, c'est exactement ce que fait le COR. Donc, plus vous êtes dans un horizon qui est court-termiste, plus leurs prévisions, selon les hypothèses qu'on décide de prendre et de regarder, parce qu'effectivement, entre les ABAC, les projections, vous avez une floraison de projections et vous prenez celle qui vous convient le mieux, intellectuellement, politiquement, mais vous avez quand même une vision assez fine de ce qui peut se passer dans les 3-4 ans à venir. modulo quelques indicateurs qui peuvent laisser la confusion, comme la productivité qui a été corrigée, ou comme le taux de chômage. Oui. On sait qu'il ne va pas baisser aussi vite
que dans les projections. Productivité corrigée en novembre dernier.
Bien sûr, mais au même titre qu'en 2017, on avait corrigé les provisions démographiques. Et que Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y avait pas besoin de réforme paramétrique dans sa campagne en 2017, parce qu'il se basait sur un rapport du COR qui était sur des projections démographiques.
Et quelques mois plus tard.
Et quelques mois plus tard, le COR a révisé ses projections démographiques du fait de l'INSEE, de la révision de l'INSEE. Et donc, du coup, l'incidence a été inverse. Il fallait faire une réforme. Et je finis juste en disant que, en vérité, ce n'est pas le COR qu'il faut critiquer. S'il faut critiquer quelqu'un, c'est l'autre comité. C'est le comité de suivi des retraites qui a été créé après la loi Touraine de 2013 et qui lui fait des recommandations de politique économique sur la base des projections du COR. Et ce comité de suivi des retraites publie un rapport généralement dans la foulée de celui du COR. C'est généralement le 14 juillet, donc tout le monde s'en fout parce que personne ne le regarde. Et lui, il est très clair. Et depuis 2017, le comité de suivi des retraites recommande au gouvernement de faire une réforme paramétrique.
Au sein du COR, vous avez des hauts fonctionnaires, vous avez des parlementaires, vous avez des représentants des retraités, des syndicats de salariés, syndicats des patronaux. On branche un peu des choux et des carottes dans cette histoire quand même, Emmanuel. Non, pour vous, il n'y a pas de...
Non, mais le problème, c'est que ce serait un peu le souhait finalement de tous les politiques d'avoir des experts et des techniciens qui vous livrent clé en main la réforme qu'il faut faire, et
c'est impossible.
Que c'est toujours l'argument qu'on essaye de chercher. Le rapport du COR, effectivement, ça n'est pas une recommandation de réforme, c'est un outil, Michael l'a très bien expliqué, qui fait des hypothèses.
Oui, donc tout le monde se sert pour conclure tout et son contraire, c'est ça que je vous disais. Voilà.
Effectivement, après, c'est un peu le jeu démocratique, c'est-à-dire que tout le monde s'en empare pour y trouver ce qui veut. C'est un peu, je sais pas, comme, je sais pas si vous connaissez les films d'Harry Potter, à un moment, il y a un miroir dans lequel chacun voit ce qu'il a le plus envie de voir. Vous voyez, donc lui, Harry Potter, il a envie de voir ses parents.
Le corps,
si vous
c'est
mettiez,
Harry Potter.
Si vous mettiez Philippe Martinez devant, peut-être qu'il aurait envie de voir que le régime des retraites n'a aucun problème. Vous mettriez peut-être Emmanuel Macron, il y verrait des déficits colossaux.
C'est le cas, d'ailleurs.
Donc,
oui, mais en l'occurrence, vous dites avec Michael que c'est une boussole, mais le patron du corps, justement, lui, il a des convictions très arrêtées.
Oui, mais le problème, c'est que...
Et il s'est pris un tacle de la part d'Elisabeth Borne il y a deux jours.
C'est un tacle politique. Il a raison.
Pierre-Louis Bras a une vision très personnelle des travaux du COR.
Il dit une vérité, il dit que les dépenses ne dérapent pas. C'est vrai que si vous prenez en tendance, en pourcentage du PIB, les dépenses de retraite vont rester stables à peu près à 13%.
Michael.
C'est vrai.
Non, mais effectivement, le rapport du COR, il donne des faits, il hiérarchise les faits, ils disent les dépenses sont stables, le système n'est pas en danger, il y a un déficit de prévu, et voilà les différents leviers que vous pouvez activer pour faire une réforme. Et donc, en fait, c'est normal que tout le monde s'en saisisse, et en fait, si vous regardez bien, il n'y a pas vraiment de débat sur le diagnostic. Simplement, le gouvernement, voyant le déficit, il crie au feu et il dit « c'est urgent et voici ma réforme » et il prend un choix politique. Et les opposants à la réforme disent « un, il n'y a pas de danger vu l'ampleur du déficit et voilà les alternatives qu'on propose ». Mais le COR permet en fait de discuter de vrais chiffres, y compris des hypothèses en les discutant. Vous n'avez pas ça sur plein d'autres politiques. Et en réalité, à mon avis, on manque de COR plus qu'on a trop de COR.
Mais là où le politique est fautif, si vous voulez, c'est que le COR... le conseil même qui décide finalement, qui oriente, qui conseille ou qui recommande des réformes ou pas. Eux, ils sont dans leur rôle, qui est de ne gérer que le dossier des retraites. Après, aux politiques de faire son travail, qui est de hiérarchiser l'ensemble des problèmes et des maux dont souffre la France, de les hiérarchiser par ordre de gravité et de les hiérarchiser par ordre de priorité. Est-ce que une réforme des retraites était nécessaire? Allez, on va dire que oui. Est-ce qu'elle était urgente? Pas forcément. Et est-ce qu'il était vraiment utile de consacrer toute l'énergie réformatrice de ce quinquennat à une réforme qu'on peut considérer comme secondaire par rapport à d'autres qui seraient beaucoup plus importantes, qu'on a déjà évoquées ici? On pense au logement, on pense à la modernisation des services publics, etc. Moi, je pense qu'on gaspille toute l'énergie réformatrice de ce quinquennat pour une réforme secondaire.
Michael, pour conclure, un petit mot.
Il y a aussi un enjeu de démocratie sociale. Le COR, c'est un outil de démocratie sociale. Avant qu'il n'existe, les gens n'étaient même pas d'accord sur les chiffres et sur le constat. Il est créé suite au livre blanc de Michel Rocard, etc., pour dire on va avoir un observatoire où, en permanence, en dehors des réformes, les partenaires sociaux discutent de l'état du système, font des diagnostics, tirent des leçons. Et c'est aussi ça qui est en jeu. C'est-à-dire que un des blocages de la réforme, c'est qu'il n'y a aucune démocratie sociale. On n'a pas trouvé d'espace de discussion. Et donc, moi, ma crainte, c'est que quand on s'attaque au
COR... Il y avait le commissariat au plan avant.
Oui, aussi. Mais
bien avant.
D'ailleurs, le corps a été créé suite à la publication d'un rapport de Jean-Michel Charpin, qui était un rapport du plan, ouais, qui disait qu'il n'y avait pas de problème de retraite. Et donc, il a fallu créer un organisme indépendant
pour
torpiller les conclusions d'un rapport du corps qui ne plaisait pas.
Un des problèmes de la réforme actuelle, c'est que je me demande si ce n'est pas la question de la démocratie sociale qui est en jeu quand on propose une réforme des retraites avec aucun partenaire syndical en face pour la discuter.
Allez, on marque une petite pause. 18h48, on se retrouve dans un instant. On parlera des annonces de BNP Paribas hier.
Oui, on parlera de finances durables et d'économie positive.
BNP Paribas qui veut diminuer de 80% ses financements à la production de pétrole. Peut-il y avoir une finance durable à terme dans ce bas monde? On en parle.
On l'espère. À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h51, encore quelques minutes avec nos débatteurs, avec Audrey Tcherkov, avec Marc Landré, avec Mickaël Zemmour et avec Emmanuel Le Chip. On en parlait hier soir déjà, ces annonces de BNP Paribas, hein, qui nous dit, entre autres engagements, vouloir diminuer de 80% ses financements à la production de pétrole. On voit petit à petit le secteur financier qui s'y met, qui fait des annonces parfois impressionnantes, mais on a l'impression que tout ça peut encore prendre beaucoup de temps. Y aura-t-il un jour une finance 100% durable? C'est un vœu pieux, ça, Audrey. Non, peut-être pas si pieux.
Alors, vous avez raison de le dire, il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup d'annonces, il y a une vraie volonté. En attendant, en 2020, les banques françaises sont le premier financeur européen des énergies fossiles. Et seulement 20% de leur financement énergétique vont vers les énergies renouvelables. Le souci, il est qu'il n'y a aucune régulation sur la transparence. Il y a quand même un énorme scandale sur le livret de développement durable qui ne sert pas du tout la transition écologique.
Mickaël, votre avis là-dessus?
Je pense que ce que vous critiquez, c'est le greenwashing. Et effectivement, on peut penser que c'est un frein à la transition écologique de donner un label de bon comportement à des choses qui n'en sont pas. Après, la finance par construction, elle finance les activités économiques. Donc si on veut ralentir les énergies fossiles, il faut, à mon avis, d'abord réguler l'industrie des énergies fossiles, parce qu'on ne peut pas attendre de la finance que spontanément elle réoriente les activités.
La finance, elle veut continuer à pouvoir continuer à bosser aux États-Unis, surtout.
Oui, et puis surtout, Marc Landré. Le mix énergétique aujourd'hui, il est toujours largement en faveur
des fossiles.
Des énergies fossiles. Donc on ne va pas arrêter les investissements du jour au lendemain pour faire plaisir à quelques écolos, pour dire, parce que sinon on va chauffer à quoi? Au bois?
Quelques écolos,
je caricature.
C'est un peu extrême, franchement, Marc.
Je caricature.
C'est une question de volonté. Quand on voit que pour un euro investi, la Banque Postale contribue deux fois moins que la Société Générale au changement climatique, c'est aussi une question de volonté.
Et BNP Paribas beaucoup plus, mais BNP Paribas, ils sont numéro 1 en Europe. Donc ils ont aussi une responsabilité de ne pas pouvoir se désengager d'investissement. Parce que sinon, on va se chauffer au bois. Même si je caricature, in fine, on en arrivera là. On a encore besoin d'investissement, d'explorer de nouveaux gisements, parce qu'on n'est pas, arrivé à un mix qui permet de se passer.
Non, mais bien sûr, mais en même temps, on ne peut pas non plus dire qu'on souhaite s'engager dans la transition écologique si on continue à financer à 1500% les énergies fossiles.
Non, mais par contre, quand on a sur l'avenir, quand on passe de 5 milliards d'investissements dans les nouveaux gisements pétroliers et gaz, on passe de 5 à 1 milliard, c'est une vraie volonté de montrer un chemin vers moins de financement, d'investissement dans les énergies fossiles. Enfin, il y a un chemin qui est pris. Donc après, on peut dire c'est pas assez. On devrait aller plus vite, aller plus loin. Après, c'est une question de curseur, une question de tendance. Mais le chemin, il est là.
Emmanuel, votre credo, vous, c'est qu'on va encore avoir besoin de pétrole, donc n'arrêtons pas tout du jour au lendemain, si je résume. C'est un peu ça.
Moi, je pense que la finance est en train d'essayer d'organiser une transition idéalisée, théorique, idéologique, qui n'a jamais existé, encore une fois, à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire que ça n'existe pas, la transition énergétique. Vous avez, au fil de l'histoire, des énergies qui sont venues s'ajouter aux énergies qui existaient précédemment. Et on n'a jamais consommé aujourd'hui autant de chaque énergie prise séparément. On n'a jamais consommé autant de charbon, autant de pétrole, etc. Et donc, on va encore avoir pendant 20 ou 30 ans besoin d'énormes quantités de pétrole. Encore une fois, prenez l'exemple de la Norvège, c'est quand même un cas très intéressant et qui démontre que la transition énergétique, ça n'existe pas.
Disons changement ou
non, mais c'est
évolution.
Le pays qui a... Non, mais je veux dire, ce fantasme-là qu'on est en train d'organiser avec la finance, c'est quand même de dire on va plus investir dans le pétrole, hop, on passe aux énergies vertes et on fait autre chose. La réalité, c'est que la Norvège consomme toujours autant de pétrole alors qu'elle a développé son parc automobile électrique comme aucun autre pays. Donc, la solution... Alors, regardez déjà, les investissements dans le pétrole, ils ont été deux fois plus faibles depuis 10 ans que ce qu'ils auraient dû être. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument sacraliser, si vous voulez, nos besoins en pétrole, et par contre, encourager massivement, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus d'électricité. Donc, assurons que la croissance de l'électricité dont on aura besoin soit au maximum le fruit de l'énergie verte.
Et qu'on investisse.
Au lieu de penser qu'il faut arrêter d'investir dans le pétrole, que c'est sale d'investir dans le pétrole, encourageons massivement.
Et le problème, c'est qu'on a arrêté d'investir. On a arrêté d'investir dans dans les infrastructures pétrolières et parapétrolières depuis des années aux États-Unis, notamment. Oui, Michael, pardon.
Ça menace la transition.
Oui, ça menace la transition. Oui,
c'est sûr que c'est sale d'investir dans les énergies fossiles. Et effectivement, ça peut être utile pour les épargnants qui souhaitent ne pas investir là-dedans, que ça soit clair. Maintenant, la finance, il faut lui parler au cœur et à la rentabilité. C'est-à-dire que la chose qui fera qu'elles arrêtent d'investir dans les énergies fossiles, c'est une politique publique qui les rende non rentables. Alors, vous pouvez penser à la régulation si vous préférez, à la taxe carbone si vous préférez, mais c'est une politique publique des gouvernements qui rend les énergies fossiles non rentables, qui fera rendre raison à la finance. Il ne faut pas attendre le changement social en général et la transition écologique en particulier du monde de la finance, ça viendra pas.
Non, mais enfin, en même temps, on ne peut pas dire que...
C'est la magie du capitalisme. C'est la plasticité du capitalisme.
Oui, il faut parler
au cœur. C'est que tout ça se fera par intérêt.
Il faut parler au cœur et la rentabilité. Mais il l'a très bien dit, Michael. Voilà, il l'a très bien dit.
À partir du moment où la finance se dira il n'y a plus d'argent à faire là-dedans, elle changera d'orientation. Et pour ça, il faut changer sans doute le cadre des politiques.
À défaut de parler d'en faire, il y a moins d'argent à se faire. Ou s'il y a plus d'argent à se faire ailleurs.
Il faut que ça soit plus rentable ailleurs.
Audrey, vous concluez ?
Non, mais le souci, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a zéro régulation sur les établissements bancaires, que ce soit sur les crédits accordés aux entreprises ou alors sur les activités de marché, obligations, actions. Enfin, elles font ce qu'elles veulent.
Mais penser qu'il faut sous-investir dans le pétrole, on court droit à la catastrophe.
Non, mais il faut surinvestir dans la transition.
Investissons massivement les pétroliers le font déjà. Pensez à ce que pourrait être un.
Les pétroliers le font déjà, Emmanuel. Est-ce que Total le fait vraiment?
Ils investissent aujourd'hui beaucoup sur ce qu'ils peuvent faire en matière de captation du carbone. Etc.
Quand tu regardes l'investissement par rapport au profit, c'est ridicule.
Mais après, qu'il faudrait qu'ils investissent beaucoup plus, qu'on les incite à investir beaucoup plus, etc. Mais encore une fois, je pense que la base de la réflexion, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de pétrole et qu'on menace même la transition écologique en elle-même si on n'est pas conscient de ça. Ce qui n'empêche pas qu'il faut massivement développer les énergies renouvelables.
Allez, c'est fini. Merci.
Quand même.
Fini à l'heure pour une fois, tiens.
Oui.
Merci à tous les trois d'avoir été là ce soir sur le plateau de Good Evening Business. Michael Zemmour, économiste à Paris, un Panthéon-Sorbonne. Marc Landré, directeur associé chez SIA Partners. Emmanuel Le Chip pour BFM Business. Merci, messieurs.
Merci.
D'avoir été avec nous ce soir, 18h58. Ça marque une petite pause. On revient dans un instant.
Voilà. Et si vous avez raté une partie de ce débat, c'est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code ou alors sur nos plateformes bfmbusiness.fr.
On parlera du marché du travail. Dans un quart d'heure avec notre premier invité, c'est le patron de Manpower en France, Alain Roumillac, qui sera avec nous. Et puis à 19h30, on parlera auto avec le patron France de Volkswagen. Il y a eu des chiffres mondiaux qui sont sortis il y a quelques jours chez Volkswagen. Bon, on parlera de tout ça, on parlera électrique, on parlera concurrence de la Chine, on parlera...
Et d'autres choses.
Véhicules thermiques en Europe, enfin bien d'autres sujets. Voilà le programme.
À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.